Ils doivent se débarrasser de. Page 89. Toute excitation ou de tout abattement. Ils doivent se débarrasser de toute émotion forte. Ils doivent être calmes devant le Seigneur. Il se peut qu'il nous soit nécessaire d'attendre pendant des minutes, des heures, des jours et peut-être des années avant d'atteindre le calme. Dieu est très patient envers nous. Il n'est pas pressé. Quand l'esprit humain est normal et dans l'attitude d'attente devant Dieu, il recevra de Dieu des instructions, des corrections, des directives, des encouragements, des reproches, etc. En fait, c'est ce que Dieu aimerait faire chaque fois que nous venons devant lui. Il veut nous parler. Cela devrait être normal que nous entendions directement sa voix et non pas seulement les instructions de son logo pendant nos moments de méditation. Le problème, souvent, c'est que l'esprit humain est alourdi par le péché ou par la chair, ou encore par l'excitation et l'agitation. Je suggère que tu commences à t'attendre à Dieu et à écouter sa voix. Je suggère que pendant ces sessions spéciales mises à part pour écouter Dieu, tu décides de ne rien lui demander. Décide de ne même pas le remercier ni le louer. N'intercède pas. Reste seulement calme devant lui. Le Saint-Esprit t'aidera à ôter toute distraction, que ce soit le péché, les inquiétudes, les lassitudes, l'excitation, etc. Il aidera ton esprit à devenir normal, calme et attentif. Alors Dieu te parlera. Tu recevras dans ton esprit des messages venant du Saint-Esprit. Il rendra les choses claires pour toi. Cela pourra prendre du temps avant que tu n'atteignes le point où il peut communiquer avec toi, mais tu ne dois pas être pressé. Même si cela prend des jours, attends. Il y a des personnes qui prennent des temps de retraite pour s'entraîner à passer plusieurs heures ininterrompues devant le Seigneur. De telles personnes entendent la voix de Dieu. On peut aussi entendre la voix de Dieu de façon distincte et claire, comme Moïse devant le buisson ardent ou comme Saul de Tarse sur la route de Damas. Quelle que soit la manière par laquelle elle vient, l'essentiel est qu'elle vienne, qu'elle soit reconnue comme étant la voix de Dieu et qu'on lui obéisse, parce qu'elle exprime la volonté parfaite de Dieu. Lorsqu'un croyant se trouve ainsi dans une disposition intérieure d'attente devant le Seigneur, il est bon qu'il confesse son ignorance, page 90, de la volonté de Dieu et qu'il exprime son désir d'entendre la voix de Dieu. Il peut même insister et dire qu'en qualité d'enfant de Dieu, il désire ardemment faire la volonté de Dieu et que par conséquent, il a besoin d'entendre la voix de Dieu. Il peut insister davantage en disant qu'il ne s'en ira pas sans avoir été exaucé. S'il s'engage d'une telle manière, il faut qu'il reste devant Dieu jusqu'à ce que Dieu lui parle. J'ai lu, à propos de l'évangéliste Whitfield, qu'il était une fois resté prosterné devant Dieu pendant 72 heures. Il y a là un exemple très remarquable. Il n'est pas étonnant qu'il ait eu un tel ministère. Dieu parle par des rêves. Dieu a parlé par des rêves à de nombreuses personnes citées dans la Bible, Abimélec, Jacob, Laban, Joseph, les chansons, et le panetier, Pharaon, les Madianites, Nebuchadnezzar, Joseph, les mages d'Orient, Joseph, la femme de Pilate, Genèse 20, 3 Genèse 31, 11 Genèse 31, 24 Genèse 37, 5 et 9 Genèse 40, 5 Genèse 41, 1 Juge 7, 13-14 Daniel 2, 1 Daniel 4, 4 et 18 Matthieu 1, 20 Matthieu 2, 12 Matthieu 2, 13 Matthieu 2, 19 Matthieu 2, 22 Matthieu 27, 19. Dieu a parlé à ces gens par des rêves. Certains d'entre eux connaissaient Dieu, tandis que d'autres ne le connaissaient pas, mais Dieu leur a parlé tout de même. Certains d'entre eux, comme Daniel, étaient des prophètes et Dieu leur a aussi parlé par des rêves. Page 91. Dieu parle par des visions. La Bible entière est remplie d'exemples où Dieu a parlé par des visions. Nous allons nous limiter à quelques exemples du Nouveau Testament. Dieu a parlé par des visions à Anania, Corneille, Pierre, Paul, acte 9, 10, 10, 3, 10, 9-10, 16, 9-10, 18, 9-10. L'apôtre Paul a eu de nombreuses visions. Dieu lui a aussi parlé par des anges. Il est écrit que pendant son voyage en bateau vers Rome, Paul dit aux passagers « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi, Actes 27, 22-24. Paul avait besoin de ce message d'encouragement, et Dieu le lui a envoyé par un ange. De nos jours, les anges n'ont pas été retirés. Les anges sont tous des esprits au service de ceux qui doivent obtenir le salut. Les anges sont des esprits à notre service, à nous, les croyants. Ils accomplissent les missions que Dieu leur confie. Ils nous protègent. Mais nous sommes si souvent insensibles à leur présence et fermés à leur action que Dieu ne peut plus nous parler par eux. Disons-lui à nouveau, Seigneur, parle-moi par des visions. Envoie-moi des messages par tes anges. Je suis ouvert à leur présence et à leur action. Je les recevrai. Je recevrai leurs messages. Je vais croire à ce que tu me diras par leurs moyens. Dieu parle par la Bible. Il y aura des moments où, pendant que tu liras la parole de Dieu, le Saint-Esprit va vivifier une partie de cette parole, de sorte qu'elle deviendra soudain vivante pour toi. Ce sera par exemple une promesse ou un avertissement. Au moment où tu lis un passage de la parole, celui-ci semble soudain jaillir de la Bible et s'adresser à toi et tu sais avec assurance que Dieu vient de te parler. Page 92. Par exemple, il peut arriver que tu lises plusieurs fois de suite dans la parole « C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris » et, un jour, subitement, Dieu ouvre tes yeux et tu réalises à ce moment que ce passage s'applique à ton cas personnel, que toi aussi tu as été guéri par ces meurtrissures. Tu te tournes alors vers lui et tu lui dis « Oui, Seigneur, j'ai été guéri ». Et dès ce moment se manifestent les signes visibles de ta guérison. Dieu vient de te révéler sa parole. Il a transformé son logo en son rhéma pour toi? Je ne peux pas l'expliquer davantage. Je sais seulement que si tu es un enfant de Dieu et que tu marches près de lui, tu expérimenteras ceci de nombreuses fois pendant que tu liras la parole et que tu t'attendras à lui. Dieu parle par les circonstances de ta vie. Dieu utilisera aussi les circonstances de ta vie pour te parler. Ce seront par exemple des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent, des opportunités nouvelles, etc. Il peut même utiliser les choses qui t'intéressent particulièrement pour te faire connaître sa volonté. Dieu te parlera. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, il te parlera. Il a même poussé une ânesse à parler à un prophète égaré. Il te parlera. Il rendra sa volonté claire pour toi. Discerner la volonté de Dieu, nous avons dit que Dieu peut parler par une voix, des rêves, des visions, etc. Mais cela ne veut pas dire que tout message reçu par l'un de ces moyens vient nécessairement du Seigneur. La voix, le rêve, la vision, etc. peuvent provenir de trois sources, du Seigneur, de l'esprit humain, du malin. Dans notre attente devant le Seigneur, nous devons être capables de distinguer sa voix des autres voix. Nous ne devons pas penser que toutes les portes ouvertes sont le fruit de son œuvre, ni que toutes les portes fermées sont l'œuvre de l'ennemi. L'ennemi peut ouvrir de nouvelles portes pour nous détourner de l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Dieu peut fermer des portes pour nous conduire là où il veut que nous soyons. Nous devons avoir du... Page 93. Discernement dans chaque circonstance et ne pas nous laisser emporter par les apparences. C'est pour cela qu'il nous faut être délivrés de tous nos intérêts égoïstes par l'œuvre de la croix. Sinon, nos inclinaisons naturelles nous égareront. Nous accepterons les apparences et prendrons nos désirs pour la volonté de Dieu. Dieu a parlé à Gédéon et lui a confié une tâche. Gédéon savait que c'était le Seigneur, mais il voulait s'en assurer. La Bible dit « Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air, si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je reconnaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir de la rosée, qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Juges 6, 36-40. Gédéon voulait être sûr que c'était la voix du Seigneur, alors il a demandé une confirmation et Dieu la lui a donnée avec bienveillance. Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Nous pouvons lui demander de confirmer ce que nous avons reçu de lui et il le fera. Ce qui est important, c'est que nos cœurs soient purs et que nous soyons uniquement engagés dans l'accomplissement de sa volonté. Si c'est le cas, quelle que soit la manière par laquelle nous parviendrons à connaître sa volonté, nous pouvons recevoir une pleine assurance. S'il y a cependant quelque intérêt secret personnel, nous risquons de nous tromper car nous allons souvent confondre la voix de notre esprit avec la voix du Saint-Esprit. Il est facile de rêver, pendant le sommeil, de quelque chose que l'on a imaginé durant la journée. Il est facile de rêver, pendant le sommeil, de quelque chose que l'on a imaginé durant la journée. Il est facile d'avoir une vision au sujet des choses que l'on a dans son cœur, mais si le croyant s'est totalement mis à part pour servir Dieu, il entendra la voix de Dieu. Page 94, 8. Obéir à la voix de Dieu, faire la volonté de Dieu. Quand un croyant reçoit les instructions du Seigneur sur ce qu'il doit faire, il ne doit pas tout de suite se précipiter dans l'action. Il doit attendre de recevoir les détails du Seigneur. Le Seigneur ne va pas dire « va évangéliser cet endroit » et ensuite laisser à l'homme le soin de décider quand, comment, avec qui, les limites de l'action, etc. Dieu veut donner des ordres spécifiques au sujet de ces détails, car son œuvre doit être faite dans sa volonté parfaite en ce qui concerne le moment, les limites, les sources financières, etc. Ceci veut dire que souvent la révélation initiale sera suivie d'autres révélations. La personne qui a reçu du Seigneur la révélation initiale et qui a su discerner la voix de Dieu doit encore attendre devant Dieu avant de commencer à agir. Ceci est clairement illustré dans la vie de l'apôtre Paul. Il s'est converti sur la route de Damas. Il est entré dans la ville et a été baptisé. Puis il a partagé la communion fraternelle avec les frères. Il est ensuite allé en Arabie, où il est resté pendant 3 ans, puis il est retourné à Damas avant d'aller à Jérusalem. Ainsi, avant de rencontrer un seul apôtre, il passait 3 ans en Arabie afin que le Seigneur, qui lui était apparu auparavant, rende toutes choses claires dans son esprit. Nous voulons insister très fortement sur ce point. Quand tu reçois un message du Seigneur, la première chose à faire est de ne le raconter à personne. Recherche encore le Seigneur pour recevoir de lui d'autres instructions. De la sorte, tout deviendra bien clair et tu ne seras pas entraîné sur une fausse route. Pour cela, il faut que le moi, qui te pousse à aller tout de suite partager avec autrui ce que tu as reçu, passe par la mort. Les personnes dont la chair est crucifiée savent être calmes. Elles peuvent garder le silence pendant longtemps. Elles peuvent garder secret ce qui ne doit pas être partagé ou ce qui ne doit jamais être divulgué. Peux-tu garder le silence? Sais-tu garder un secret? Paul est resté en Arabie pendant 3 ans. Y a-t-il perdu son temps? Faisait-il attendre Dieu? Résistait-il à Dieu? La réponse est non. Il était en train de clarifier les choses avec Dieu et d'attendre le moment de Dieu. La volonté de Dieu doit être faite, mais il faut qu'elle soit faite au temps voulu par Dieu. Se précipiter pour devancer ce moment ou le retarder, c'est de la folie. Page 95. Il se peut que Dieu t'ait clairement appelé à quitter ton travail actuel pour le servir ailleurs. Mais es-tu prêt à partir seulement au moment voulu par Dieu? Ne dis pas des âmes sont en train de périr. Il me faut partir immédiatement. Cela c'est la chair qui le dit. C'est de la rébellion. Est-ce le Seigneur qui t'envoie? Est-ce bien lui qui t'envoie à ce moment-là? Dieu est toujours à l'heure. Il a attendu des milliers d'années après que l'homme ait péché pour envoyer le Sauveur, et pourtant le Sauveur est venu au temps marqué, prévu par Dieu. Qu'aucun de nous n'agisse par précipitation et par zèle charnel, ce qui empêcherait l'action de Dieu. De l'appel personnel au début de l'action, le délai entre l'appel du Seigneur et le commencement de l'action peut varier considérablement. Cela peut aller d'une seconde à plusieurs années. Ceux qui connaissent leur Dieu et l'entendent clairement sauront quand c'est le moment d'agir. Cela pourra être après une seconde ou après 10 ans. Que personne ne dise, par refus d'obéir, qu'il attend d'autres instructions du Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Si nous ne sommes pas profondément sincères au fond dans notre cœur, nous nous trompons nous-mêmes. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Obéir à Dieu lorsque c'est le moment voulu par Dieu, notre obéissance doit être totale et entière. Dieu n'approuve pas ceux qui lui obéissent en partie seulement. Saül, le premier roi d'Israël, a été rejeté parce que son obéissance était partielle. Le prophète qui fut envoyé par Dieu à Bethel accomplit son ministère prophétique et fut pleinement approuvé par le Seigneur. Dieu lui avait dit de ne pas manger de pain ni de boire de l'eau dans cet endroit. Il obéit, mais pas entièrement. Quelqu'un est venu lui dire qu'il avait reçu un message pour lui de la part d'un ange de l'Éternel pour l'informer qu'il devait maintenant manger et boire. Il obéit à cet homme et alla manger du pain et boire de l'eau. Page 96. Immédiatement après, Dieu le tua à cause de sa désobéissance. 1 Roi 13, 1-32. Il y a là une leçon très sérieuse. Nous sommes responsables devant Dieu de ce qu'il nous révèle. Si nous permettons à qui que ce soit de nous en dissuader, nous serons punis par le Seigneur. Nous répétons que Dieu nous tient responsables de toutes les vérités qu'il nous montre et qu'il exige d'être obéis. Si tu désobéis à cause des instructions de tes anciens, des lois de ton pays, des exigences de ta dénomination, de l'insécurité financière qui en découle, du risque de perdre ta vie, des circonstances difficiles, du refus de ton conjoint, etc., tu seras disqualifié. Nous ne devons laisser rien ni personne nous empêcher d'obéir à Dieu. Tout ce qu'il faut sacrifier pour obéir au Seigneur doit être sacrifié. Tous les obstacles à l'accomplissement de la volonté de Dieu doivent être enlevés. Tout ce que Dieu nous demande de faire peut être fait. Nous devons faire sa volonté même, si cela nous conduit à perdre notre vie. Nous devons faire sa volonté même, si cela nous conduit à tout perdre. Dieu n'acceptera aucune excuse de notre part pour n'avoir pas obéi à ses commandements. Dieu n'écoutera jamais aucun argument que nous avancerons pour expliquer notre désobéissance. L'obéissance est définitive. L'obéissance est la preuve unique de notre amour pour lui. Ceux qui ont un grand amour pour le Seigneur lui obéissent. Ceux qui lui obéissent totalement l'aiment totalement. Es-tu obéissant? Es-tu décidé à obéir? Est-ce que tu t'es engagé à obéir totalement au Seigneur en toutes choses? Est-ce que tu obéis effectivement en toutes choses? Page 97, chapitre 4. La croix et nos priorités. Seigneur, aide-moi à faire seulement ce qui compte le plus pour ton royaume. Accorde-moi la révélation de ta première et de ta seconde venue sur la terre et aide-moi à m'appliquer à faire ce que tu veux que je fasse maintenant. Seigneur, ne permets pas que je perde mon temps à faire des choses que je ne peux pas faire, mais que tu feras aisément quand tu reviendras. Aide-moi à consacrer toute ma vie à t'amener des âmes maintenant. Page 99. Les priorités du Seigneur. Nous avons parlé de domination sur la création et du besoin de conquérir le monde pour Dieu. Mais comment allons-nous procéder? Il faut distinguer plusieurs domaines: la domination totale de l'homme sur la création, l'instauration du royaume de Dieu sur la terre et le temps de Dieu. Comment devons-nous nous y prendre pour accomplir ces choses? Quelle doit être notre attitude? Il y a des besoins nationaux. Il y a des problèmes internationaux. Il y a des problèmes raciaux, des problèmes écologiques, il y a la famine, la sécheresse, etc. Que faut-il faire à propos de ces choses? Il y a la corruption et la malhonnêteté, il y a le népotisme et le favoritisme. Il y a l'apartheid, etc. Quelle doit être l'attitude de ceux qui savent que le but de Dieu c'est la domination totale sur la création? Je suis convaincu qu'il faut regarder au Seigneur Jésus et bientôt la lumière brillera sur nous. Je crois que la réponse repose sur les deux venues de Jésus. Il est venu une première fois et il reviendra. Il a accompli certaines choses pendant sa première venue et il en a laissé d'autres non accomplies. Il va revenir une seconde fois et alors il accomplira d'autres choses. Lors de sa première venue, il a commencé à rétablir le royaume de Dieu en concentrant son action sur ce qui était primordial. Lors de sa seconde venue, il achèvera le programme de rétablissement du royaume de Dieu. Jésus n'est pas indifférent aux problèmes de l'homme. Dieu n'est pas indifférent. Cependant, Dieu a son temps et il travaille selon son temps. Il est évident, à partir de la Bible, que lors de sa première venue, le Seigneur s'est occupé principalement du péché, du salut des pécheurs et de l'établissement du royaume dans les cœurs des sauvés. Son objectif principal n'était pas de résoudre les problèmes politiques, économiques et sociaux. Un jour, quelqu'un a voulu se servir de Jésus pour résoudre un problème de cet ordre, et Jésus lui a répondu très clairement. Voici ce que dit la Bible, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage ?» Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos pages sans partage ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous, avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance, Luc 12, 13-15. » D'après la Bible, il est évident que, lors de sa seconde venue, le Seigneur ne s'occupera pas du salut par la régénération, mais il se concentrera sur les problèmes sociaux, politiques et économiques. Les problèmes concernant nos villages, nos tribus, nos nations, nos races seront résolus lors de sa seconde venue. Il leur apportera une solution durable. Un regard sur le monde, il y a beaucoup de vices dans le monde. Le monde en général, et notre pays en particulier, ont beaucoup de besoins. Certains pays ont même des besoins encore plus grands. Les systèmes politiques de ce monde, même les meilleurs, sont mauvais et remplis de contradictions. Il y a les inondations, les tremblements de terre, les tensions raciales, la famine, les renversements d'un régime par un autre, etc. Oui, il y a des crimes affligeants et des injustices tragiques. Les prisons sont pleines. Certaines personnes ont des problèmes d'excès de poids, alors que d'autres meurent de faim. On vote des lois pour arranger les choses, mais on abolit encore plus de lois que l'on en promulgue. Il y a des problèmes partout. Les dirigeants politiques, d'une manière sincère ou non, essaient de trouver des solutions à ces problèmes. Des efforts évidents sont déployés, mais comme l'a dit un ancien secrétaire général des Nations Unies, nous avons essayé de toutes nos forces d'instaurer la paix dans le monde, mais nous avons misérablement échoué. De nombreux croyants pensent que les problèmes seront résolus si le gouvernement du monde était entre les mains des croyants. Plusieurs disent si notre président était un croyant, nos problèmes seraient résolus. Je ne partage pas cette manière de penser. Même si de nombreux chrétiens dans le monde étaient des dirigeants politiques, les problèmes politiques, économiques et sociaux du monde ne disparaîtraient pas. Ce n'est pas la réponse de Dieu. Il n'est pas disposé à convertir tous les dirigeants du monde ou tous les futurs dirigeants du monde pour résoudre les problèmes du monde. Page 101. La solution de Dieu, c'est d'envoyer par deux fois Jésus-Christ sur la terre. Dieu n'a pas d'autre solution durable pour notre temps. Dieu a la réponse aux problèmes du monde. Chaque croyant doit savoir que le Seigneur s'intéresse à tous ces problèmes. Ils ne sont pas futiles, comme certains veulent nous le faire croire. Tous les croyants doivent aussi savoir que Dieu a préparé une solution à tous ces problèmes. Non seulement il a préparé la solution, mais il a prévu le moment exact où la solution sera apportée. Le croyant n'a donc aucune raison de s'inquiéter. Il doit rester en paix. Le croyant ne doit pas chercher à concevoir ses propres solutions. Il doit attendre la solution de Dieu. Seuls ceux qui ont atteint la maturité spirituelle peuvent s'attendre à Dieu. Ils ont compris qu'il est inutile de faire des suggestions à Dieu. Ils se contentent de l'écouter. Les croyants doivent considérer comme important ce que Dieu considère comme important. Quand Christ est venu la première fois, il n'a rien dit au sujet de la politique d'Israël. Il ne s'est pas occupé du monde, ni des systèmes du monde. Il est venu sauver les hommes individuellement. Sa première venue avait pour but de régler les problèmes spirituels. Après sa première venue et jusqu'au moment de son retour, ceux qui lui appartiennent doivent concentrer leur énergie sur les problèmes que le Seigneur a considérés comme importants lors de sa première venue. Nous ne devons faire que ce que Christ fait. Lors de sa première venue, le Seigneur s'est intéressé aux individus. Nous de même, nous devons concentrer nos efforts sur le salut des individus. Entre les deux venues de Christ, les croyants doivent faire tous leurs efforts pour s'occuper du problème du péché, car c'est la préoccupation de Christ actuellement. Page 102. La réponse de Dieu au monde, aujourd'hui lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur Jésus, il ne peut manquer de produire un impact sur le monde et les hommes qui l'entourent. S'il était un ivrogne, il ne boira plus et le problème de la boisson sera réglé pour lui d'une façon définitive. S'il avait un magasin d'alcool, il le fermera et rendra ainsi l'alcool moins facile à trouver pour les ivrognes, bien qu'ils puissent s'en procurer ailleurs. La fermeture de son magasin ne réglera pas leurs problèmes. Si une personne paresseuse se convertit, elle va travailler dur et sa productivité va s'accroître. Si un haut fonctionnaire qui détournait les fonds du gouvernement se convertit, il ne volera plus. Il utilisera plutôt les fonds du gouvernement de façon honnête, mais les autres fonctionnaires, non convertis, continueront à voler. La société a toutefois bénéficié de sa conversion. Nous voyons à partir de ces exemples que l'impact positif du chrétien sur le monde est nécessairement indirect. Les gens doivent d'abord être amenés à Jésus. Ensuite, quand ils seront sauvés, toute leur vie sera une contribution positive à la société. Essayer de changer la société sans changer le cœur des gens, c'est courir à un échec. Cela ne peut pas marcher. On peut établir une législation très bonne qui soit reconnue comme telle par la majorité, mais les gens vont quand même violer les lois à cause de ce qu'ils sont dans leur cœur. La réponse de Dieu au monde maintenant, c'est que le monde soit sauvé en Christ et par Christ. Dieu n'a pas d'autre réponse maintenant. Il apportera un complément de réponse prévu pour la deuxième phase, mais pour le moment ce n'est pas sa préoccupation. Cela ne doit pas non plus être notre préoccupation. Considérons quelqu'un qui passe toute sa vie à pourvoir aux adductions d'eau nécessaires à son village et à militer pour l'éducation des quelques membres de sa tribu pour qu'eux aussi puissent avoir leur part du gâteau national. Du point de vue du monde, il a semblé faire du bon travail. Mais, du point de vue de ce que Dieu a prévu pour l'époque que nous vivons, c'est un échec. Les raisons de cet échec sont évidentes. Tout d'abord, il a investi pour le bien de sa tribu. Son motif, c'est la défense des intérêts de sa tribu. C'est le moi. Ensuite, quelle sera la conséquence de son? Page 103. Travail dans le futur. Est-ce censé d'améliorer le confort des gens dans un monde qui n'a aucun avenir? Un pêcheur illettré est perdu. Un pêcheur bien éduqué est perdu. Mais un croyant illettré est sauvé, sauvé, sauvé. Limite par le temps dont on dispose, le monde, aujourd'hui, peut être comparé à un navire en train de couler. Dans cette situation, on peut faire trois choses. On peut essayer de réparer le bateau afin qu'il ne coule pas. Ceci n'est pas possible avec le monde, parce qu'il a été jugé sur la croix et parce qu'un nouveau monde est en vue. Le monde actuel ne peut pas être guéri. Aussi, c'est de la folie que de vouloir réparer le bateau. On peut essayer de sauver les passagers et la cargaison du navire. Cependant, le bateau est en train de chavirer à une telle vitesse que si l'on perd du temps à essayer de sauver la cargaison, toutes les personnes à bord du bateau vont périr noyées, ce qui est bien plus grave. On peut essayer de sauver les passagers du bateau. Celui qui entreprendrait de les sauver doit savoir que son temps et son énergie sont limités. S'il pouvait sauver la cargaison et les passagers, ce serait alors merveilleux. Mais il ne peut faire qu'une seule chose. Il peut sauver soit la cargaison, soit les passagers. Il peut aussi décider qu'il sauvera une partie de la cargaison et certaines personnes, mais alors il assistera à la perdition des autres personnes qu'il aurait pu préserver de la mort s'il avait décidé de concentrer tous ses efforts sur le sauvetage des hommes. S'il s'était dit, quel que soit le prix des marchandises, « Je n'y prête aucune attention, je vais sauver les personnes », s'il avait ainsi décidé de consacrer tout son temps et toute son énergie au sauvetage des passagers et de laisser tomber le sauvetage de la cargaison, beaucoup de personnes auraient pu être sauvées par son moyen. Le chrétien ne peut pas annoncer Jésus aux hommes et en même temps entreprendre toutes sortes de réformes sociales. Il a une durée de vie limitée. Il a des ressources limitées. Il faut qu'il décide soit de sauver uniquement les hommes, soit de sauver les hommes. Page 104. Tout en essayant de sauver le monde, soit de sauver uniquement le monde. Ceci est un problème très sérieux. Nous sommes à la veille du jugement éternel. Tout effort déployé pour sauver le système social du monde est un effort gaspillé qui n'est pas consacré à sauver des individus. Chaque once d'énergie investie dans le monde est une once d'énergie ôtée de celle qui doit être utilisée pour le salut des individus. Tout franc investi dans le développement social du monde est un franc ôté de ce qui doit être utilisé pour le salut des hommes pour lesquels Jésus est mort. Laisse-moi te poser une question directe. Es-tu en train d'investir dans le monde du temps, de l'énergie, de l'argent que tu aurais dû investir pour faire entrer des hommes dans le royaume? Le salut des âmes est la priorité de Dieu. Cette priorité s'impose pour deux raisons. Tout d'abord, si les hommes ne sont pas sauvés maintenant, ils seront définitivement perdus. Le salut des hommes ne peut pas être différé. La construction des adductions d'eau dans le village peut attendre sans qu'il y ait des conséquences éternelles. La construction d'une maison peut attendre sans qu'il y ait des conséquences éternelles. La définition d'une nouvelle politique de l'éducation peut attendre sans qu'il y ait des conséquences éternelles. Aller faire des études en Amérique, cela peut attendre sans qu'il y ait des conséquences éternelles. Le mariage peut attendre sans qu'il y ait la condamnation éternelle d'une âme. Cependant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ce qui ne peut pas attendre, c'est la proclamation de la vérité pour amener des hommes au Seigneur maintenant. Il y a des croyants très occupés à planifier l'évangélisation pour les années à venir, mais qui, pendant ce temps, ne font rien de combatif pour amener des hommes au Seigneur aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur garantit que le Seigneur repoussera son retour jusqu'à cette date? Certains ont du temps, de l'argent et de l'énergie à donner au Seigneur, mais pour plus tard et pas pour maintenant. Ces croyants vont perdre la partie. Demain, il sera trop tard. La deuxième raison, c'est que lorsque le Seigneur reviendra, il n'y aura plus la possibilité de le servir dans le domaine du salut des âmes. La fin de la première phase marquera également la fin de la possibilité d'amener les autres au salut. Page 105. Ceci veut dire que ceux qui sont partagés entre le salut des hommes et le sauvetage des choses terrestres sont dans l'erreur la plus grave. La seule chose que nous devons faire maintenant, c'est travailler au salut des âmes. Ceci veut dire que celui qui a saisi la vision céleste et qui a compris les implications des deux venues du Seigneur Jésus a un seul objectif, le salut des âmes. Et ceci, quel que soit l'endroit où il se trouve et quelle que soit son activité, qu'il soit étudiant, professeur, agriculteur, soldat, directeur ou serviteur, il n'a qu'une seule tâche, sauver des âmes. Il est aussi là pour gagner ce qui est nécessaire au financement de son seul objectif, le salut des âmes. Ainsi, un professeur enseigne dans une école pour gagner les gens de cette école à Christ et aussi afin que l'argent qu'il gagne soit investi dans le salut des âmes. La même chose s'applique à l'étudiant. Il est à l'école pour gagner les gens de cette école au Seigneur Jésus et aussi pour obtenir un diplôme qui lui permettra de gagner de l'argent qui sera investi dans l'évangélisation. Ce sont là les seules raisons pour lesquelles il y est. Être à l'école pour obtenir un diplôme qui lui donnera du prestige, de la célébrité, des honneurs, ou pour être reconnu dans sa tribu, pour satisfaire l'ego de sa famille, de son clan, etc., tout cela n'est pas digne du vrai chrétien. Ceci veut dire que tous les chrétiens sont à plein temps au service du Seigneur? Ils servent le Seigneur 24 heures sur 24. S'ils mangent, ils le font afin d'avoir un corps en bonne santé pour servir le Seigneur? S'ils dorment, c'est pour se reposer de leur dur labeur pour le salut des âmes et afin de renouveler leur énergie pour gagner encore plus d'âmes. Rien dans ce que font les chrétiens ne doit être dissocié de leur unique tâche, qui est d'amener les gens au Seigneur Jésus. Gagner les âmes, une priorité, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites dans le royaume de Dieu. Il y a l'évangélisation, le pastorat, l'enseignement, la prophétie, le ministère auprès des jeunes convertis, auprès des pauvres, etc. Toutes ces choses sont bonnes et nécessaires. Cependant, je voudrais suggérer que la plus grande et la plus importante, c'est d'amener un pécheur perdu au Sauveur. Nous aurons des possibles pages 106. Habilité de croissance spirituelle quand Jésus reviendra. Par exemple, quand nous le verrons, nous serons changés pour être comme lui. Cependant, il n'y aura aucune possibilité de le connaître pour ceux qui ne l'ont pas connu auparavant. Les jeunes convertis seront dans le royaume? Les croyants ont la vie éternelle, même ceux qui n'ont pas atteint la maturité, les croyants qui n'ont pas reçu d'enseignement hériteront la vie éternelle. Les croyants qui ne connaissent pas tout le conseil de Dieu ne périront pas. Cependant, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ périront éternellement. Je ne suis pas en train de soutenir l'idée que l'on doive encourager l'immaturité et un enseignement au rabais. Je suis seulement en train de suggérer que la priorité c'est d'apporter l'évangile à ceux qui sont sans Christ et de les aider à saisir la vie éternelle. Personnellement, j'ai fait un certain nombre de choses dans le royaume. Si j'avais à recommencer toute ma vie et si j'avais le choix, j'investirais tout mon temps, toute mon énergie, tout mon talent, toute ma richesse dans la seule entreprise au monde qui ne peut attendre à amener des pécheurs au Sauveur. Dès maintenant, je veux investir ma vie d'une manière nouvelle dans l'évangélisation. Je veux retourner dans les rues où j'ai commencé mon ministère. Je veux organiser plus de campagnes d'évangélisation. Je veux organiser plus de croisades. Je veux écrire plus de traités d'évangélisation. Je veux écrire plus de livres d'évangélisation. Je veux enseigner à plus de personnes lors de gagner les âmes. Je veux construire un centre d'évangélisation. Je veux construire un bâtiment pour la coordination de l'œuvre d'évangélisation. Je veux former des évangélistes. Page 107. Je veux prêcher l'évangile à tous les hommes dans le monde entier par tous les moyens possibles. C'est la direction future de mon ministère? Quelqu'un pourrait demander qu'arrivera-t-il aux jeunes convertis? Eh bien, Dieu prendra soin d'eux. Ne vont-ils pas rétrograder? Eh bien, Judas n'a pas tenu bon, bien qu'il ait eu le meilleur enseignant du monde et les soins du meilleur pasteur, Jésus-Christ. Je crois que ceux qui reçoivent l'appel de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et y répondent, n'ont pas besoin d'être suivis. Ils grandiront et ils aimeront le Seigneur? Qui donc s'est occupé de suivre l'apôtre Paul après sa conversion? Je préférerais voir des multitudes de bébés ne enseigner dans le royaume que de les voir perdus. Je préférerais voir des multitudes sauvées, même manquant de sagesse, plutôt que de les voir perdues. Je dois concentrer mon action sur l'évangélisation. Il faut que l'Église concentre son action sur l'évangélisation. Les gens grandiront plus vite en se donnant eux-mêmes aux autres. Ce que je suis en train de dire ici pourrait contredire certaines choses que j'ai dites avant ou que je dirai plus tard, mais il n'y a en fait aucune contradiction. C'est seulement une question de priorité. Vaut-il mieux former 10 croyants mûrs ou sauver 1000 personnes? Jésus ne va-t-il pas garder en lui les 1000 jeunes convertis jusqu'à ce qu'ils reviennent? S'il peut faire cela, alors je préfère amener 1000 personnes au salut que d'en édifier 10 déjà sauvés. Il y a beaucoup de croyants qui stagnent parce qu'ils passent toute leur vie à se laisser édifier. Cessons donc de perdre du temps avec eux? Puissions-nous nous consacrer à ceux qui sont perdus? Notre enseignement, lui aussi, a besoin d'être pratique. Il doit aider les autres à grandir dans la vie chrétienne au lieu de les bourrer de grandes théories. Les doctrines qui n'ont pas d'implication pratique dans cette vie doivent être écartées jusqu'à ce que Jésus revienne. Les contradictions apparentes de la Bible ne doivent pas être notre préoccupation. Consacrons-nous à ce qui est évident dans la parole, qui ne se prête pas à l'équivoque. Page 108. Pratique qui forme des croyants obéissants et qui aiment Jésus. Réexamine tes priorités. Jésus résoudra tous les problèmes sociaux, quand il reviendra il n'y a pas de solution en ce moment pour les problèmes du monde. Les systèmes actuels, les gouvernements actuels, la société actuelle ne peuvent pas être réellement transformés. Pour le croyant, l'attitude la meilleure c'est de les ignorer. Quand le nouveau ciel et la nouvelle terre seront amenés à l'existence, cet ordre et ce système du monde s'évanouiront. C'est la seule solution. Jésus ne s'est pas intéressé à la politique. Il n'a jamais abordé les sujets d'ordre politique. Il pouvait révolutionner l'ordre politique de son époque, mais il ne l'a pas fait. Il pouvait délivrer la nation juive de la domination romaine, mais il ne l'a pas fait. Il le pouvait effectivement, mais il refusait de le faire. Il était venu sauver les individus et les sauver du péché. Il mourut sur la croix et ressuscita dans le but de sauver les pécheurs et de leur donner une nouvelle vie. Il veut que tous les siens se consacrent aujourd'hui à ce seul objectif. Jésus va revenir. Il résoudra alors tous les problèmes sociaux. La Bible dit or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales, et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles, pour entendre entende Matthieu 13, 40-43. Le Seigneur va nettoyer complètement le monde. Il enverra ses anges pour faire ce travail. Ce n'est pas notre travail. Les anges arracheront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité. Vois-tu? Tous les scandales seront ôtés? Tous, tous, tous et pas seulement quelques-uns. Page 109. Tous les bars seront ôtés, toutes les boîtes de nuit disparaîtront. toutes les inclinations tribales, tous les problèmes raciaux disparaîtront. Tout ce qui fait chuter les hommes sera enlevé. En plus, tous ceux qui commettent l'iniquité seront ôtés. Ainsi, quand le Seigneur reviendra, tous les scandales et tous ceux qui commettent l'iniquité seront arrachés de son royaume, et les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Entends-tu? Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Quand ces choses auront été ôtées, le royaume de Dieu sera inauguré sur la terre. Tous ceux qui ont été sauvés resplendiront comme le soleil. Ils régneront dans le royaume de Dieu. En ce jour, le royaume de la terre, qui a été racheté par le Christ sur la croix, deviendra effectivement le royaume de Christ et de ses saints. Tout mal sera ôté. La prospérité sera grande. La justice sociale remplira la terre. Il y aura la paix et l'harmonie même dans le monde animal. C'est pourquoi, aujourd'hui, ceux qui ont reçu la révélation de ces choses n'essaient pas de changer le monde ou de réformer la société. Tous leurs espoirs reposent sur la venue du Seigneur Jésus. Quand il reviendra, tous les problèmes seront résolus. Aujourd'hui, nous cherchons le Seigneur, nous l'aimons, nous n'aimons pas le monde, nous sauvons les âmes, nous n'essayons pas de changer la société, quand il reviendra, nous régnerons avec lui. Seigneur, ne tarde point, viens maintenant, viens vite, aide-nous maintenant à investir nos efforts dans le salut des âmes, aide-nous à ne pas gaspiller notre temps à essayer de faire ce que nous ne pouvons pas faire et ce que tu as décidé de ne pas faire maintenant, aide-nous à regarder à toi et à savoir que lorsque tu reviendras, tous ces autres problèmes seront résolus. Gloire à ton nom. Amen. Page 110. Chapitre 5. La croix et les relations personnelles avec autrui. Dans les relations personnelles que nous avons avec les autres, il y a une seule façon de satisfaire le cœur de Dieu. Dans chaque interaction avec quelqu'un d'autre, nous devons mourir à nous-mêmes. La mort met fin à tous les conflits. En mourant, un homme demeure dans une paix permanente. Ceux qui servent le Seigneur à partir d'une position de mort quotidienne sont entrés dans le repos de Dieu. Page 111. En dernière analyse, la chose la plus importante au sujet d'une personne, c'est sa relation avec les autres. La relation qu'elle a avec les autres donne une indication sur sa relation avec Dieu. La personne qui ne peut pas vivre avec les autres pourrait découvrir qu'elle ne peut pas vivre avec Dieu. Beaucoup de relations humaines connaissent de profondes tensions. Ces tensions peuvent être intérieures ou se manifester extérieurement. Ces tensions indiquent que les parties concernées ont besoin de mourir.